La revue de presse, bonjour Jean-Philippe Ballas.
Bonjour à toutes et à tous.
Dans les journaux ce matin, la vie d'après.
Oui, et ces visages qui sourient, parfois ou pas, en double page dans Libération, des hommes et des femmes rescapés des attentats du 13 novembre. Des photos, mais peu de mots, juste pour vous dire que Rémi, Gaël, Guillaume et les autres sont toujours là. À chacun sa catharsis et la vie qui se poursuit. Comme celle de Julien, jamais tout à fait sorti du Bataclan, à la une de l'Union et de l'Ardennais, oui, comme si c'était hier. Résume la Provence. Dans l'équipe aussi, on en parle, avec cette plaque de marbre à la mémoire de Manuel Dias, portugais de 63 ans, fan absolu de foot et qui ne pensait pas trop à la retraite. Alors, Monsieur Dias faisait le chauffeur parfois pour des clients qui profitaient des loges du Stade de France. 154 km entre Reims et Paris, il avait pris la route ce 13 novembre 2015 pour le match France-Allemagne. Vous l'avez peut-être oublié, mais Manuel Dias fut la première victime de cette nuit d'attentat. L'équipe lui rend hommage et décrit son dernier voyage quand Manuel Dias s'est mis à la terrasse d'un bar, juste à côté du stade, pour être dans l'ambiance en attendant les clients et la fin du match. Il avait mangé sa gamelle dans son van, il voulait prendre un café, le temps de passer un coup de fil à sa femme à la maison et de répondre à sa fille qui préparait son mariage. Oui, jusqu'à l'arrivée de ce type bizarre. La serveuse du bar, elle s'appelle Sarah, sera blessée à une jambe. Au moment de l'explosion, Monsieur Dias a fait écran, dit Sarah aujourd'hui. Il m'a sauvé la vie.
De l'importance de ne pas oublier.
Bah oui, pour transmettre, tout simplement, à celles et ceux qui n'étaient pas là ou ne se souviennent pas. C'est aussi ce que fait Monsieur Samuel Sandler, dont le fils et les deux petits-fils ont été assassinés le 19 mars 2012 devant l'école Ozar HaTorah de Toulouse. Assassinés parce qu'ils étaient juifs. Samuel Sandler, dont le Parisien aujourd'hui en France prend des nouvelles ce matin. La pudeur d'un homme de 74 ans qui vous dit qu'il n'y a pas de gloire à avoir un fils mort, mais qui va parler tout de même dans les lycées, devant des élèves pétrifiés qui souvent étaient trop petits à l'époque, n'avaient même jamais entendu parler des attentats de 2012. Alors il raconte pour que l'antisémitisme ne soit pas un sujet tabou. Samuel Sandler qui dit aussi attendre des excuses d'Éric Zemmour depuis cette polémique, vous savez, l'enterrement en Israël. C'est difficile pour moi, dit-il. Tout le monde parle des Sandler, mais pas comme je le voudrais. Éric Zemmour, dont il est aussi question quelques pages plus tôt, toujours dans Le Parisien, avec une vieille connaissance américaine, Steve Bannon, ex-éminence grise de Donald Trump, et pas peu fier de vous annoncer qu'il y aura bientôt une version française de son podcast ultra-conservateur. Parce que la France est un laboratoire, dit-il, et s'il ne choisit pas vraiment entre Éric Zemmour et Marine Le Pen, il se félicite de l'addition de leur score dans les sondages. Zemmour, que Steve Bannon voit comme un intellectuel, et Bannon, inculpé lui-même dans son propre pays, les États-Unis, parce qu'il avait refusé de témoigner au Congrès, vous signale Le Monde. Et oui, pas de coopération avec la commission d'enquête sur l'assaut du Capitole le 6 janvier. La veille, le 5, Steve Bannon avait pourtant lâché dans son fameux podcast « Tout converge, c'est le moment d'attaquer ».
Dans les journaux de ce matin, il y a aussi de la couleur bleue.
Oui, alors bleu d'abord, comme la planète, à la une de West France. Et cette question inquiète, COP26, l'accord sera-t-il à la hauteur de l'enjeu? Bleu aussi, la combinaison de ski de ce gamin, qui doit avoir un an ou deux, qui s'agite dans les bras de son père, et qui ne semble pas faire attention aux soldats, aux barbelés autour de lui. C'est le chantage de Minsk, à la une du Figaro, la tragédie des migrants à la frontière de la Pologne et de la Biélorussie. Bleu enfin, la couleur des gilets de ces salariés en grève dans les colonnes de Nice matin, des hommes et des femmes chargés de contrôler les parcs-mètres et qui n'en peuvent plus. Des insultes, des crachats, des menaces et qui vous précisent au passage que non, non, ils ne touchent pas de commission sur le nombre de PV dressés. Ils se contentent du SMIC, c'est peu, parce que porter ce gilet bleu, disent-ils, c'est aussi le risque de se retrouver filmé, partagé, dénoncé sur les réseaux sociaux comme une cible au milieu du front. Bon, oui, décidément, c'est un peu tendu dans vos journaux. Alors les amis, je vous propose pour terminer d'aller prendre l'air sur une île, l'île d'Oate, au large du golfe du Morbihan. 220 habitants souriants qui pourtant auraient eux aussi des raisons de se plaindre puisque Ouest-France vous annonce la fermeture de la dernière boulangerie insulaire. C'est Joseph Le Gurin qui a éteint son four. Bon, en même temps, cela faisait 43 ans qu'il faisait du pain pour tout le monde sur ce petit caillou, boulanger de père en fils. Alors autant vous dire qu'il la savoure, sa petite mousse, monsieur Joseph, accoudé au bar, qui veut désormais un peu de temps pour lui. Et vous savez quoi? Personne n'oral, ou presque, tout le monde est d'accord, même s'il faudra prendre commande auprès du continent, attendre la traversée des bateaux. Bah oui, que voulez-vous, c'est une philosophie de vie, résume un local. Ici, c'est pas Uber Eats, on vous livre pas un burger dès que vous avez envie. Et personnellement, elle me fait un peu envie, l'île d'Ouatt ce matin.
Eh ben, si vous allez à Ouatt, vous irez à l'île d'à côté, plus petite, Edic. Ouatt et Edic qui vont ensemble.
Et Belle-Île, pas loin non plus.
Et Belle-Île, évidemment, au large de Quiberon. Jean-Philippe Ballas pour la revue de presse, merci. Et à demain.